Tara.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Salaud ou les 120 jours de Sodome. Un film considéré comme sacrilège, blasphématoire, inique et dangereux, rien de moins. En 1975, à sa sortie, il crée une polémique d'ordre moral, politique et spirituel. Salaud, c'est l'enfer, selon Pasolini, son réalisateur, un artiste complet, poète, dramaturge, essayiste, romancier et réalisateur. Il a signé des films sans concession comme Acatone, Mamma Roma, Théorème, L'Évangile selon saint Matthieu. Mais tout cela, c'était avant Salaud. C'était le temps de la trilogie de la vie, de ses trois films de Cameron, Les Contes de Canterbury, Les Mille et Une Nuits. Pasolini filme la lutte, l'espoir, et va chercher dans les racines de l'histoire et de l'art les raisons d'espérer. C'était avant qu'il ne renie ses films, devenus à ses yeux inutiles, à une époque où la liberté sexuelle lui apparaît comme un leurre, où ce qu'il appelle le pouvoir de consommation et sa fausse tolérance violent les corps innocents, asservit les vies privées. Alors il veut faire la démonstration des liens qui existent à ses yeux entre rapports sexuels et rapports de classe. Déterminé depuis toujours à dénoncer les déviances de la société bourgeoise de son siècle, il choisit donc le marquis de Sade dans Salaud pour montrer que le sexe dans notre société devient un instrument de soumission. Pasolini ne craint rien, ni personne, il attaque, il dénonce, il provoque à en mourir. Notre invité aujourd'hui, Hervé Joubert-Laurencin, professeur d'histoire du cinéma à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'œuvre de Pasolini. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Léa Dupuyenquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, comédien Delphine Valeil et Philippe Pirard, réalisation Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Philippe Duclos, Alexandre Chenet.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Tant que je ne serai pas mort, personne ne pourra être certain de me connaître vraiment, c'est-à-dire de pouvoir donner un sens à mon action. La mort accomplit un fulgurant montage de notre vie. C'est-à-dire qu'elle choisit les moments vraiment significatifs de cette vie et les met bout à bout, en faisant de notre présent infini, instable et incertain, un passé clair, stable, sûr. Pier Paolo Pasolini, 1967, au Festival de Pesaro.
C'est un corps méconnaissable qui est retrouvé sur la plage d'Ostie, près de Rome, dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. Le visage est éclaté, le corps et les os s'encharpient. La police italienne doit consulter les papiers de la victime pour identifier le corps. Il s'agit de Pier Paolo Pasolini. Son film « Salaud ou le 120 jours de Sodome » est juste terminé, mais il n'est pas encore sorti.
20h hier soir, Pier Paolo Pasolini dîne dans la proche banlieue de Rome avec Ninetto Davoli, un acteur assez peu connu mais qui a tourné dans de nombreux films de Pasolini. 22h, les deux hommes se quittent. Au volant de sa voiture, une Alfa Romeo, Pasolini part pour une destination inconnue. 1h du matin, au cours d'un contrôle de routine, la police arrête, non loin de l'aéroport de Rome, un jeune homme de 17 ans. Il est seul à bord de l'Alfa Romeo de Pasolini. On pense tout de suite à un vol de voiture. C'est d'ailleurs un repris de justice. Et puis ce matin, 6h30, un couple découvre le corps de Pasolini horriblement mutilé sur un terrain vague d'un bidonville d'Ostie à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Rome. Le metteur en scène a, semble-t-il, été tué à l'aide d'un pieu en bois et une voiture lui est passée à plusieurs reprises sur le corps. Selon les médecins, l'assassinat remonterait entre 22h30 et minuit.
Pour ce meurtre, le dénommé Pelosi est condamné à 9 ans de prison. Mais les proches de Pasolini ne croient pas à cette version. Pour Simon Misrahi, ami de Pasolini, c'est un meurtre politique.
C'est une attaque très précise du fascisme italien et ça rejoint les menaces de mort que Pasolini avait reçues au cours des derniers mois, dès l'annonce du tournage du film. Et pendant toute la durée du tournage du film, Pasolini a reçu des menaces de mort très précises. Et je crois que la thèse rocambolesque d'un crime crapuleux de mœurs laisse assez pantois.
Vous n'y croyez pas ?
Je n'y crois absolument pas. C'est une chose absurde. Quand on connaît Pasolini comme je le connaissais, je vois mal Pasolini draguant stupidement à la gare centrale de Rome et emmenant un garçon sur la place d'Ostia. À mon avis, c'est un guet-apens prémédité. Pasolini faisait du karaté, Pasolini était un sportif, c'était un paquet de nerfs, il se bagarrait très souvent. Donc je ne vois pas Pasolini se faisant tabasser stupidement par un blanc-bec de 17 ans. Ça me paraît absurde.
Alors, il s'agit probablement d'un assassinat orchestré par l'extrême droite que le cinéaste écrivain gêne depuis toujours et plus que jamais en cette fin d'année 1975. Car il vient de terminer son dernier film, craint de tous, objet de menaces et d'intimidation, avant même que quiconque n'en ait vu une seule image d'ailleurs. Cette œuvre s'appelle donc Salo ou les 120 jours de Sodome. Le parallèle entre la fin du tournage et la fin de Pasolini est établi.
Dans le monde du cinéma, c'est toujours la consternation. On connaît maintenant les circonstances exactes dans lesquelles Paolo Pasolini a été assassiné. Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque, a déclaré, lorsqu'il a appris la mort de Pasolini, « C'est un homme qui suscitait la violence contre lui. À la violence, il répondait par la violence. C'est normal que l'homme qui a fait Théorème finisse comme Pasolini. Cela tient du martyr. »
Salo est un film de commande. Au départ, le producteur Alberto Grimaldi confie le projet et l'adaptation des 120 jours de Sodome, d'après le livre de Sade, à Sergio Citti, ami et co-scénariste de Pasolini. Durant l'écriture et le travail en commun, le cinéaste s'y intéresse de plus en plus. Quand lui vient l'idée de transposer l'action du livre sous la République de Salo, c'est la révélation. Salo ou les 120 jours de Sodome sera son prochain long-métrage. Transposer le roman de Sade au sein de l'État fantoche du nord de l'Italie, dirigé par Mussolini entre septembre 1943 et avril 1945, symboliser les exactions fascistes par les violences et les perversions sexuelles qui constituent l'univers sadien, c'est une démarche que Pasolini considère comme une interprétation, une projection cohérente.
Le sens réel du sexe dans mon film est une métaphore du rapport entre pouvoir et soumission. Tout le raisonnement de Sade a une fonction bien spécifique et claire, représenter ce que le pouvoir peut faire du corps humain. La réduction du corps à l'état de chose, l'annulation de la personnalité de l'autre. C'est un film sur le pouvoir, mais aussi sur l'anarchie du pouvoir. Rien n'est plus anarchique. Ce que veut le pouvoir est totalement arbitraire ou dicté par des nécessités économiques échappant à la logique.
Pour Pasolini, le sadomasochisme, théorie du marquis de Sade, s'incarne dans la réalité du fascisme et par extension dans tout rapport de pouvoir impliquant la domination et donc l'asservissement jusqu'au capitalisme où, selon Marx, rappelons-le, l'individu est réduit à l'état d'objet, de marchandise. Dans le roman de Sade, des nobles libertins s'isolent 4 mois dans un château de la Forêt Noire pour y assouvir leurs pulsions, selon un rituel codifié établi par eux-mêmes sur 8 filles et 8 garçons de 12 à 15 ans enlevés pour subir des tortures. Dans le film de Pasolini, ce sont 4 dignitaires fascistes appelés par leur titre, comme chez Sade, le duc, l'évêque, le juge, le président, qui enlèvent et réunissent leurs victimes dans un domaine de Marzabotto, l'orador sur glane italien où 1 millier d'habitants furent massacrés à l'automne 1944. Pasolini apporte aussi dans l'organisation du récit une suite de figures empruntées à l'enfer de Dante, le vestibule de l'enfer, le cercle des passions. Sodomie, pédophilie, coprophagie, torture, meurtre, Pasolini est décidé à briser les tabous, à exposer l'homme dans toute son ignominie. Le cinéaste veut jeter un pavé dans la mare indigne à ses yeux qu'est l'Italie des années de plomb. La présence des membres du parti d'extrême droite dans le gouvernement démocrate chrétien d'Aldo Moro, les attentats perpétrés par les brigades rouges, les activistes néofascistes, les dérives du consumérisme et du libéralisme économique. Pour Pasolini, ce paysage politique, ces mensonges, cette perte du sens sont intolérables. Avant même le premier jour de tournage, le 3 mars 1975, il reçoit des menaces de mort de groupuscules d'extrême droite. Le tournage a donc lieu sous surveillance policière. Pasolini pense que le monde a changé trop vite. Déçu, il ne croit plus à l'Europe. Il a conscience que le monde évolue de manière dramatique, un peu comme Stefan Zweig en son temps. Et il prévient.
Salo sera un film cruel, tellement cruel, que je serai obligé de m'en distancier, de faire semblant de ne pas y croire.
Pasolini s'inquiète beaucoup de la montée d'un nouveau fascisme, se souvient Hélène Surgère, l'une des actrices du film. Sur le plateau, il ne dévoile qu'aux derniers instants les sévices que les jeunes acteurs doivent jouer. Paradoxalement, Hélène Surgère évoque un tournage plutôt joyeux, une ambiance légère, où le principal problème était d'empêcher de rire les très jeunes acteurs, notamment lors du banquet des excréments. Mais autour du tournage, les menaces sont sérieuses, elles. Des bobines de films disparaissent, contraignant Pasolini à utiliser des chutes de pellicules pour monter certaines scènes. Lors des premières projections de travail, les premiers spectateurs accusent le coup. Hélène Surgère se souvient.
J'étais atterrée. Comment avions-nous pu faire une chose aussi terrible sans nous en apercevoir ? Je me suis demandé si nous n'avions pas été trop loin. Mais j'ai toujours été d'accord avec le projet. Pasolini me disait qu'il fallait se servir du cinéma comme d'une arme politique. J'ai revu Salo plusieurs fois et mon avis a changé selon les époques. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus en phase avec notre temps. Les gens perçoivent mieux ce qu'il dit sur la société de consommation.
Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Écoutez le règlement qui régira maintenant votre vie.
À 18h précises, toute la compagnie devra se réunir dans la salle dite des orgies, où les narratrices viendront tour à tour nous raconter une histoire dont le but est d'exciter l'imagination. Et toute la lascivité sera autorisée. Après dîner, ces messieurs passeront à la célébration de ce que l'on désigne par le terme orgie.
Allez, jeunes gens, mettez-moi.
Dans le déroulement de son film, le cinéaste évite les artifices. Le corps est décrit sur un mode explicite et les relations au pouvoir ne sont pas métaphoriques. Pasolini filme sans phare la violence des rapports humains.
Le fait d'observer comme nous le faisons...
Le résultat de cette démarche, c'est l'obscène qui place le sexe dans un rapport de pouvoir brutal et abusif. Dans Salo, les victimes n'ont pas accès à la parole. Elles auraient confisqué au même titre que toute manifestation d'humanité et de liberté. Les libertins, les maîtres, eux, en usent et en abusent. Ils ne cessent de parler, de commenter ce qu'ils voient, ou énoncent des plaisanteries stupides et s'enivrent de citations. Tout ce qui est bon est excessif, par exemple. Il n'y a rien de plus contagieux que le mal, autre exemple. La seule vraie anarchie est celle du pouvoir, propos susceptibles de légitimer leur forfait. Dans la dernière partie du film qui montre la torture et la mise à mort des victimes, Pasolini radicalise cet effacement des suppliciés. Ils ne sont plus, ils sont devenus objets, néants. Les bourreaux occupent tour à tour les rôles de tortionnaires ou de voyeurs. Les scènes de supplice qui ont lieu dans une cour sont observées depuis une fenêtre avec des jumelles. Le spectateur se retrouve ainsi dans une position à la fois perverse et confortable, car dominante. Jusqu'ici privées de parole, les victimes sont désormais privées de son. Pasolini enregistre les tortures finales à la manière d'un film muet. Puis, à la fin, des jeunes bourreaux improvisent quelques pas de danse, comme échappés d'une scène burlesque. Salo, un bloc d'abîme que l'humour peut transpercer furtivement, comme chez Sade, un humour noir, tellement noir.
À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui ne vont pas croire au malheur. Elles écoutent la radio, elles boivent du thé au degré zéro de la liberté. Elles ne savent pas que la bourgeoisie n'a jamais hésité même à tuer ses fils.
Au milieu des années 70, l'époque est au cinéma polémique, contestataire, testant les limites de la morale. Piccoli, Mastroianni, Noiret, Tognazzi se suicident dans une vaste orgie et ripaillent dans la grande bouffe. Jack Nicholson défie l'ordre établi dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les amants morbides de l'empire des sens conjuguent désir et copulation. Mais Salo, par sa violence, sa froideur mortifère, son absence de complaisance, sa théâtralité, les surpasse tous en puissance subversive.
Dans ce film, le sexe n'est rien d'autre que l'allégorie, la métaphore de la marchandisation des corps effectuée par le pouvoir. Je pense que le consumérisme manipule et violente les corps, ni plus ni moins que le nazisme. Je n'ai pas abandonné le réalisme, mais le monde réaliste dont j'ai tiré certains de mes films, comme Acatone, Mamma Roma, est tombé, n'existe plus. Le fascisme consumériste est pire que le classique, parce que le clérico-fascisme n'a pas transformé les Italiens de l'intérieur, comme le fait la société marchande. Aujourd'hui, ce n'est plus un État totalitaire, mais totalisant.
Une semaine après la mort de Pasolini, la commission de censure italienne interdit la sortie du film. En France, le secrétaire d'État à la culture, Michel Guy, hésite. Salo doit être présenté dans 2 semaines au Festival de Paris, mais Pierre-Henri Delot, qui préside cette manifestation, réussit à le programmer. Le 22 novembre 1975, c'est l'avant-première. 1500 personnes se pressent devant la salle des Champs-Élysées où est projeté le film, attirées par le parfum de scandale et l'odeur de soufre qui entoure la mort de Pasolini. À la fin de la séance, la moitié du public est partie. Indignation, ennui, moquerie, malaise, les reproches faits au film sont aussi variés que contradictoires. En France, le clivage entre pro et anti-Salo s'impose très vite. Chez les anti, une voix célèbre s'est fait entendre, celle de l'incontournable critique de cinéma, François Chalais.
Disons-le tout net, rarement un film nous a donné autant l'envie de vomir. Qu'on me pardonne, mais ce ne sont que festins malodorants servis dans des pots de chambre, orgies de langues coupées, dieux crevés, flagellations de fillettes réduites à l'état de chiennes, mendiant à quatre pattes une infecte bouillie qui se révélera par la suite truffée de clous. On imagine ce que cela peut donner après un certain nombre de mastications. Vous vous indignez, vous n'êtes décidément plus dans le vent. De tous côtés, en effet, à grand renfort de citations de Roland Barthes et de Simone de Beauvoir, des esthètes à la mode vous expliqueront qu'il s'agit d'une admirable dénonciation du fascisme. Il suffit d'être prévenu. Bon, je n'ai jamais eu le goût de piétiner les morts, mais je crois que sans attenter à la mémoire du disparu, on peut estimer qu'il y avait d'autres moyens plus dignes, plus convaincants de condamner l'infamie totalitaire, que cet étalage complaisant de torture et de perversion, que cette rafle de voyeurs de la pire espèce qui se délecte aux exploits de plusieurs dangereux maniaques. Pauvre Pasolini, emporté par les fantasmes qui creuseront sa tombe, il a voulu se déculpabiliser en tâchant de culpabiliser les autres. Il a échoué et le cadavre de son alibi ne sent pas bon.
Mais Pasolini a aussi ses défenseurs, dont Jean-Louis Bory, autre critique reconnu, grand nom de l'histoire de France Inter. Il prend la défense du cinéaste dans l'émission Le Masque et la Plume.
Ce que je tiens à dire en mon nom personnel et au nom certainement de tous mes amis, c'est que je proteste solennellement contre une certaine presse française qui s'est fait l'écho d'une certaine presse italienne particulièrement immonde. C'est-à-dire que la mort, la façon dont Pasolini est mort, quelles que soient ses circonstances, ne justifie pas les allusions abjectes ou ricanantes, elle ne justifie pas des propos qui sont particulièrement scandaleux et ignobles. J'en veux simplement pour preuve, le titre sous lequel le reportage a paru dans un journal français que je ne nommerai pas, les lecteurs le reconnaîtront, et qui était ainsi intitulé « Voyez ce tas d'ordures, 2 points, c'était Pasolini ». Je trouve ça particulièrement immonde. Simplement, je veux dire que ce crachat sur un cadavre se retourne contre ceux qui le lancent. Et au besoin, entre le cadavre de Pasolini et la face de ces gens-là, j'assure le relais.
C'est tout ce que j'ai à dire. Merci.
À la sortie de la projection, le journaliste Robert Maggiori donne lui aussi son sentiment.
Essayer de traduire par écrit les ecchymoses au cœur et au cerveau produites par Salo paraît aussi dangereux que traduire en images, comme l'a fait Pasolini, l'œuvre de Sade, les 120 journées de Sodome. À la limite, la seule forme possible de critique serait celle qui filmerait les visages des spectateurs à la sortie de la salle. Des rictus, la cigarette salvatrice qui évite le commentaire lapidaire, les expressions d'horreur, de dégoût, les gouttelettes de sueur au front, l'envie de vomir. Dans tous les cas, un traumatisme, des milliers de fêlures qui s'enchevêtrent dans la tête, avec l'impossibilité de dire ce qui est touché, pourquoi et par quoi. Je suis rentré seul, avec un malaise indicible au ventre, une angoisse sourde, d'où ne jaillissait aucune lumière, aucun son. Mais peut-être faudrait-il avoir la force de relire ou revoir le film.
Lors de la conférence de presse au Palais de Chaillot à Paris, des noms du cinéma italien, Francesco Rossi, Luigi Comencini, Agnello Renzi, Bernardo Bertolucci, représentent leurs confrères et amis assassinés. Tous montent au créneau pour que l'exploitation du film soit autorisée en Italie. Bertolucci prend la parole.
Je viens en France surtout pour témoigner ici, c'est-à-dire à l'étranger, un problème qui est un problème monstrueux de notre République italienne. C'est-à-dire le fait qu'il y a une censure, qui est la violation la plus primaire des droits fondamentaux de liberté d'expression. Je pense que cette interdiction de la censure au film de Pier Paolo est une interdiction et surtout est un geste politique bien précis. Je pense que ça fait partie d'une stratégie du lynchage à laquelle on a assisté depuis beaucoup de temps. Sur Pier Paolo. Le lynchage de Pier Paolo a commencé il y a beaucoup de temps et ça continuait jusqu'à sa mort. Et ça continue encore maintenant que lui il est mort.
Liliana Cavani, réalisatrice italienne et amie de Pasolini, va jusqu'à proposer que tous les réalisateurs italiens suspendent la sortie de leur film tant que la censure ne sera pas levée. Parallèlement, des membres du Parti communiste italien, qui avaient récusé Pasolini de son vivant après son procès pour détournement de mineurs et pour la révélation de son homosexualité, tentent de récupérer son image de martyr. Dans les rangs des intellectuels, les débats font rage également. Michel Foucault et Roland Barthes émettent des réserves sur le film et son adaptation du livre de Sade. Dans un article du Monde, Roland Barthes précise ses critiques.
En somme, avec Salo, Pasolini a fait deux fois ce qu'il ne fallait pas faire en adaptant l'œuvre de Sade. Car tout ce qui irréalise le fascisme est mauvais et tout ce qui réalise Sade est mauvais. Le fantasme s'écrit, mais il ne peut se décrire.
En Italie, bien sûr, le débat est également très vif. Dans les colonnes du Corriere della Sera, un grand quotidien italien auquel Pasolini a collaboré, Italo Calvino et Alberto Moravia s'affrontent. Les reproches de Calvino touchent au sens du film et à Pasolini lui-même.
Présenter des images répugnantes ne suffit pas à donner du sens. Encore faut-il établir quel effet on veut qu'elles produisent. Il aurait fallu que Pasolini se reconnaisse un instant en ce monde qu'il accuse pour que son film trouve sa mesure, sa ligne. Son drame personnel, le rôle que jouait l'argent dans sa vie depuis que ses films avaient connu le succès.
Moravia lui répond.
Pasolini n'a pas fait un film sadique, car il n'était pas cruel. Il a fait un film mental, donc provocateur. Pasolini se sert de Sade comme d'une pierre qu'il lance contre la société italienne dans le but provocateur de la faire sortir à découvert, hors de sa corruption et de sa contradictoire condamnation de l'homosexualité.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la polémique autour du film de Pasolini, Salo, les 120 jours de Sodome. Notre invité, Hervé Joubert-Laurencin, professeur d'histoire de cinéma à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'œuvre de Pasolini. Nous le retrouverons dans 5 minutes. Le 11 janvier 1976, le film sort à Milan, frappé d'une interdiction aux moins de 18 ans. Deux jours plus tard, le procureur de la ville fait saisir le film et poursuit le producteur. Les procès durent 2 ans, mais la cour d'appel de Milan finit par acquitter. Le film est tout de même amputé de 5 minutes. En 1976, en France, Salo échappe à la censure, mais il ne sera programmé que dans une seule salle parisienne, la Pagode.
Tu sais danser ?
Non.
Alors on essaye ?
Bon, on essaye.
Toute l'œuvre de Pasolini a été controversée. Presque tous ses films ont fait l'objet de poursuites judiciaires, mais aucun n'a égalé Salo en termes de débats, de polémiques, de chocs même. Impossible d'oublier ces images où ces corps nus regroupés par terre, semblables à une meute d'animaux qui regardent leur bourreau dans l'acceptation de leur sort. Impossible de se remettre de la fin du film, ce cercle du sang, la solution finale de l'œuvre où la caméra se substitue aux jumelles grâce auxquelles chacun des seigneurs observe à tour de rôle ses acolytes torturés à mort, nous renvoyant nos propres instincts meurtriers, voyeuristes. Impossible de ne pas se sentir interpellé quand, dans le dernier plan, deux miliciens montent le son de la radio et se mettent à danser en attendant la fin du massacre. Oui, il est difficile de regarder Salo, mais le refuser, c'est comme monter le son du transistor pour ne pas entendre l'horreur et les cris. Salo est-il le film extrême décrit par ses détracteurs, un film indépassable? Que pouvait faire Pasolini après? René de Ceccati, écrivain et critique, évoque les projets du cinéaste.
Je pense que il a utilisé le cinéma dans sa fonction extrême et en effet, il pensait abandonner le cinéma. Il avait quand même écrit un autre projet pour Notter au Colossal qu'il devait tourner, mais on savait qu'il préparait déjà son retour à la littérature, justement par Pétrole et par la poésie. Et donc, je pense que le cinéma, il en avait épuisé pour lui les forces. Ça ne veut pas dire qu'il n'irait plus au cinéma, mais je pense que c'était plus le langage qui lui convenait totalement.
Depuis Salo et sa dénonciation du pouvoir et de la corruption, le capitalisme a mené effectivement aux excès et à la crise qu'on connaît aujourd'hui, niant toujours plus sa responsabilité. Pino Pelozzi, l'assassin présumé de Pasolini, est revenu sur ses aveux, affirmant en 2005 que Pasolini avait été assassiné, qu'il n'avait fait qu'assister à son tabassage à mort par des hommes de la pègre. Le film Salo a beau être effrayant, dérangeant, révulsif, ce n'est pas le plus scandaleux. C'est l'œuvre ultime d'un artiste intransigeant, homosexuel, marxiste, qui passa son existence à questionner le monde dans lequel il vivait. Avec Salo, Pasolini tend à la société le plus terrifiant miroir, celui d'une barbarie qui aura raison de lui. Reste l'énigme sur les raisons de sa mort. L'hypothèse d'un meurtre politique ou mafieux reste toujours improuvable. Pasolini est mort avant la sortie de Salo ou les 120 jours de Sodome, sans quoi, estime le cinéaste Gaspard Noé, on l'aurait peut-être tué pour ça.
Je ne savais rien, ne connaissais rien. Je prenais la vie comme elle vient. J'ai pris ton amour comme vient le jour, sur un air de slow au balajo. C'était l'avant-guerre, parfum de naguère, en couleur sépia ou noir et blanc. C'était l'insouciance, parfum d'innocence. Il n'y avait ni bon ni méchant. Dis-ce que tu m'aimes, bien sûr que je t'aime, bien sûr que je t'aime. Quelle question sur les photos de ma jeunesse, une étrange tendresse, l'amour en noir et blanc. Aujourd'hui je sais, aujourd'hui j'ai fait tout ce que les hommes peuvent faire. Et l'on m'a trahi, et je t'ai trahi, sur un air de slow au balajo. Car c'était la guerre, parfum de mystère, avec dans la bouche un goût de sang. Puis vient l'après-guerre, aux couleurs amères. C'est fini le temps des innocents. Dis, est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que nous nous aimons comme avant? Quand nous partions en promenade, en chantant la balade du bon et
Affaires sensibles sur France Inter. Bonjour Hervé Joubert-Laurencin.
Bonjour.
J'ai dans les mains votre livre intitulé tout simplement « Salaud ou les 120 journées de Sodome ». Vous êtes vraiment un spécialiste de Pasolini. Alors parler de Salaud et des 120 jours, bon, bah, c'est intéressant parce que l'affaire était sensible. C'est aussi un prétexte pour parler de ce cinéaste si particulier qu'est Pasolini. Qui est Pasolini ? L'homme, d'abord, et puis le cinéaste, sa trace dans l'histoire du cinéma. L'homme, d'abord.
Ben, c'est surtout plus qu'un cinéaste. C'est ça qui est très intéressant avec lui. C'est qu'on peut savoir beaucoup plus de choses parce que c'est un écrivain. Donc c'est un écrivain qui était connu pour ses poèmes, ça veut dire pas très connu dans le grand public. Et ensuite, il a aussi écrit des romans. Alors il a été quand même un peu plus connu par ses romans. Et puis surtout, il a été un vrai journaliste. Il a beaucoup, beaucoup écrit dans la presse depuis tout jeune, jusqu'à la fin de sa vie, où là, il a été très très connu, parce qu'il a écrit dans des très grands journaux des choses qui paraissaient très scandaleuses, donc qui amènent cette aura de soufre là, qui est autour du film. Mais ça vient d'abord de ses articles des années 74-75, donc vraiment à la fin de sa vie. Donc c'est un journaliste qui a été connu pour cette raison, c'est un grand intellectuel qui prenait parti pour beaucoup de choses et qui était toujours très surprenant. Et puis ensuite, il a été connu mondialement par le cinéma, parce que voilà, entre la poésie, le roman, le cinéma, on est de plus en plus connu, quoi. Donc, en tant que cinéaste, il a commencé à 40 ans seulement. Ça veut dire qu'en fait, il a une œuvre complète et il a une reconnaissance déjà internationale avant de faire du cinéma. C'est même très surprenant de voir le grand Pasolini, déjà très connu, se mettre à faire un film. Ça a été, on en a beaucoup parlé en 1960, parce qu'il a commencé à s'y mettre en 60. Son premier film en 61, Acatone et Mamma Roma, qu'il a pu produire parce qu'il avait écrit les romans avant. C'est-à-dire qu'il avait écrit des romans qui se passaient non pas vraiment dans la pègre, hein, mais chez les pauvres. En fait, c'est pas un romancier de la pègre. Hein. Ça, c'est une chose
c'est
qu'on
un
dit.
Cliché.
Bah oui, c'est un cliché qu'on dit très facilement quand on pense aux pauvres gens, c'est tout. C'est classique.
Hein,
les sous-prolétaires, c'est toujours la pègre.
Mais quand il débarque sur la planète cinéma, comment il est accueilli par les autres cinéastes?
En fait, il est déjà là. Parce que, on a raconté qu'il était tombé comme ça, tombé du ciel, quoi. C'est-à-dire, c'était le grand écrivain qui, tout d'un coup, se mettait à tomber du ciel. C'est arrivé, hein, de temps en temps. Il y a des gens comme ça qui essayent de faire du cinéma, qui font un film. C'est une catastrophe. Mais lui n'est pas, catastrophe ou pas, hein, ça dépend. Mais lui n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu faire du cinéma. On a même retrouvé un jour, un scénario qu'il avait écrit alors qu'il était, c'était à l'époque du fascisme, hein, donc il avait répondu à un concours, et il a fait un scénario à l'âge de 16 ans. Bon, ensuite, quand il est arrivé à Rome, il a voulu aller à Cinecittà, il a voulu savoir ce que c'était que le cinéma, et puis surtout, il a vécu de ça comme scénariste. C'est-à-dire pendant au moins 6 ans, il a vécu. Alors il a été professeur dans une école pour gagner sa vie en banlieue, mais il a été scénariste. Bon, petit à petit, il a commencé à faire des scénarios. Et un jour, j'ai dû faire ce travail pour un catalogue et j'ai cherché absolument tout ce qu'il avait fait. Et c'est très impressionnant parce qu'il a fait au moins une trentaine de scénarios avant de faire son premier film.
Donc un vrai professionnel du cinéma, c'est clair, ça vient d'être démontré. Et on reviendra un peu sur son œuvre et comment elle s'inscrit dans l'histoire du cinéma italien et même du cinéma mondial. Je voudrais qu'on parle un peu de l'homme et de sa construction qui est compliquée. Il est alors communiste, marxiste, communiste. En même temps, il est croyant, peut-être plus christique que croyant. Hein. Son évangile est un chef-d'œuvre.
Hein. Ouais.
Donc,
il est athée. Hein. C'est quelqu'un qui vit dans le monde chrétien parce que c'est un Italien. Bon,
l'évangile.
Il l'a fait en tant que marxiste. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit. Et c'est comme ça qu'il a été pris. C'est comme ça qu'il a discuté avec des chrétiens, avec des prêtres, de façon très très sérieuse, hein, mais en tant qu'il n'était pas catholique. Enfin, ça, il était catholique donc profondément de culture, et il l'a toujours dit et il l'a toujours assumé, mais pas catholique en tant que militant catholique, jamais. Jamais croyant, ou alors croyant jusqu'à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Et après,
oui,
il n'est plus croyant.
Effectivement.
Voilà. Ensuite, communiste, c'est pareil, c'est très compliqué parce qu'il a été communiste, il a eu sa carte au parti pendant 2 ans, et il aurait pu devenir à cette époque-là, à l'époque où il avait près de 20 ans, et plus au-delà de 20 ans, il aurait pu devenir peut-être un pas un apparatchik, mais enfin quand même un intellectuel qui aurait monté dans le parti, sauf qu'il a été exclu du Parti communiste. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait exclure du Parti communiste pour homosexualité, ce qui est quand même énorme. Par ailleurs, il lui était arrivé une aventure à l'avance qui dit son rapport avec le Parti communiste, qui est quand même extrêmement complexe, c'est que son frère a été assassiné par des communistes. Son frère, qui était devenu partisan dans le maquis, n'était pas dans un maquis communiste. Et à l'époque de la Yougoslavie de Tito, les communistes italiens se sont alliés avec Tito, qui voulait prendre un morceau supplémentaire de l'Italie pour agrandir la Yougoslavie au moment de la victoire sur les nazis. Et ils ont liquidé quelques maquis qui n'étaient pas communistes. Et son frère a eu le malheur de se trouver là. Donc Pasolini a adhéré ensuite au Parti communiste, alors qu'il a été au procès pour crimes de guerre de communistes qui ensuite ont été exilés toute leur vie en passant la frontière. Parce que sa famille, enfin du moins la famille de sa mère, était du côté de la frontière yougoslave. Hein, donc aujourd'hui slovène, le Frioul.
Donc ça veut dire
c'est compliqué.
Oui, j'allais vous dire, quand on parle de Pasolini, il n'y a pas de raccourci possible. Hein.
C'est difficile.
C'est complexe, son parcours est complexe, sa personnalité est complexe, son art est complexe. Et puis alors, il y a quelque chose de très complexe aussi, ce sont les rapports qu'il entretient avec son pays. Hein. Mm-hmm. Rapport passionnel, rapport dur. On va l'écouter ensemble. Dans les années 70, il s'exprime sur France Culture, et donc il parle de l'Italie des années 70, et il explique son rapport à son pays, et aussi par ses films. On l'écoute et on en reparle ensuite.
La société dans laquelle je vis est changée. L'Italie des années 50 n'est pas l'Italie d'aujourd'hui. C'était une Italie populaire, agraire, pré-industrielle, etc. Et maintenant, l'Italie est devenue un pays néo-capitaliste. Elle a eu la plus grande évolution de son histoire, peut-être. Et alors, moi aussi, j'ai changé avec l'histoire de mon pays. Agathone, l'Évangile, etc., ont eu comme destinataire le peuple, comme classe sociale. Mais maintenant, on ne peut plus parler en Italie d'un peuple dissocié de la bourgeoisie. Aussi, en Italie, il y a la culture de masse. Et alors, je ne peux pas faire des films dont le destinataire est le peuple. Il faut que je fasse des films dont la destinataire c'est la masse, et je ne veux pas. Parce que je ne veux pas accepter l'esclavage. L'esclavage, on dit esclavage.
Mais quelle différence faites-vous entre le peuple et la masse?
Et c'est une différence très, très difficile à exprimer pour moi que je ne parle pas le français. Mais le peuple, c'est une chose concrète. C'est une classe sociale in carne et os, en italien, vivant, concrète. Physiquement vrai. La masse est une abstraction qui comprend toutes les classes sociales, un phénomène de la civilisation de la consommation. Le peuple, c'est un phénomène pré-industriel.
Voilà, Pasolini, qu'est-ce que ça vous
très belle voix.
Oui. Alors, c'est tous les
on
Français,
entend sa voix douce, surtout.
Et si tous les Français parlaient aussi bien italien que Pasolini parlait le français. Voilà, parce qu'il a la modestie de dire, oh là, vous me posez une question difficile, puis d'autant plus que c'est pas dans ma langue.
Et il s'explique très bien. Ce qui est très surprenant, c'est quand on entend sa voix. Quoi. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on comprend qu'il y a des gens qui ont raison, il y a des gens qui ont tort de prendre Salo d'une certaine manière. Salo comme tout le reste. Hein, parce que Salo n'a jamais été que l'acmé, la fin, vraiment le summum de toutes les attaques qu'a dû subir Pasolini dans sa vie. Donc Salo ne vient pas tout seul. C'est pas un film qui tombe du ciel là non plus. Il est très abominable à voir. Il est vraiment insupportable. Il est fait pour ça. Mais enfin, Pasolini a été attaqué dès son premier film. Il a été attaqué dès son premier roman. Donc il y a d'autres choses qui... Alors peut-être qu'il n'est pas attaqué pour les mêmes raisons. Mais derrière cette radicalité, derrière cette force, cette puissance qui est fondamentalement politique, mais qui est fondamentalement concrète et humaine, comme il vient de le dire, il y a cette voix très douce. Et ce que moi, dans tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est surtout Moravia qui le connaissait. Oui. Voilà. Moravia, c'était un ami parmi le cercle des intimes. C'est parmi le cercle des 4 ou 5 personnes qui comptaient dans sa vie. Et Moravia réellement le connaît, tandis que les autres, non. Et plus on va vers la France, plus on va vers François Chalais, plus on se trompe, plus on entend du délire et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, au contraire, extrêmement doux, qui est un poète. Un poète n'est pas... Enfin, on ne peut pas imaginer un poète, c'est-à-dire quelqu'un qui pense le monde avec la poésie, et penser que ce qu'il montre dans son film, c'est lui. Bon, voilà, le problème avec Pasolini, c'est ça. Donc, le problème de La vie et l'œuvre, c'est... Il a été collé de façon... En fait,
Théorème avait vraiment annoncé la couleur.
Ouais, dans quel sens, vous voulez dire?
Dans le sens de secouer les consciences, de secouer un pays. Enfin, c'est un film dont on dirait aujourd'hui qu'il est totalement politiquement incorrect.
Ouais. C'est vrai qu'il le met en relation avec Salo, et que c'est un film probablement. Ouais. En revanche, il y a une très grande différence, c'est qu'il s'adresse à la bourgeoisie, et il montre la bourgeoisie pour la première fois. Et il le fait en mai 68. C'est quand même un emmerdeur. C'est
vraiment donc il est utile s'il est emmerdeur, par définition. Alors, évidemment. On va parler de ce film Salo. Quand il est sorti, vous aviez 15 ans, moi aussi, figurez-vous. Et je vous livre une petite anecdote. Je suis allé au cinéma, évidemment, en tant que lycéen. On allait tous voir Salo parce que c'était des films à aller voir.
C'était interdit.
Et c'était interdit. Et je tombe sur ma prof de français qui me dit, mais que faites-vous là? Et je lui réponds, et vous donc, madame? Voilà. Donc, pour la polémique, quel souvenir vous gardez-vous de cette polémique Salo ou les 120 jours de Salo en France,
Ouais. Moi, j'ai pas vécu la polémique. Là, je l'entends. Je me suis jamais beaucoup intéressé à la polémique française parce que pour travailler sur Pasolini, j'ai commencé il y a 30 ans. Pendant des années, je sais pas, pendant 15 ans, 20 ans, je me suis dit que j'oubliais la biographie et j'oubliais le scandale au sens de cette réception comme ça, où les gens parlent tout de suite sans réfléchir immédiatement sur ce qui passe quand ils sont profondément blessés par quand ils sont affectés, forcément blessés, mais affectés par une œuvre extrêmement dure, une œuvre vraiment qui fait mal, quoi, et qui est là pour faire mal aussi, parce qu'elle provoque des choses qui font réfléchir. Bon, moi, je me suis pas intéressé à ça, en me disant, sinon, j'arriverai jamais à travailler sur Pasolini, quoi. Et pour Salo, il a fallu encore attendre très très longtemps pour que j'écrive une partie de livre sur Salo en 95 et une autre, là, en 2012, un livre complet. Il fallait vraiment que je l'ai vu plusieurs fois. Alors, au bout d'un moment, on arrive à supporter, et y a un moment où ça bascule, C'est-à-dire que tout le monde peut faire cette expérience. Aujourd'hui, il y a un DVD, donc on peut le faire comme on veut. C'est beaucoup plus facile pour les générations d'aujourd'hui que pour nous qui l'avons vu au cinéma. Parce que l'expérience de Salo au cinéma, c'est extrêmement violent. Extrêmement violent. On a tous perdu un ami qu'on a retrouvé plus tard ou pas, sa copine, parce que c'est très dur de rester même voir le film. Avec la génération qui a eu des DVD, et même en allant au cinéma, c'est complètement différent. Moi, j'ai fait l'expérience. Je me suis trouvé vraiment au début des années 80 dans des salles de cinéma pour discuter, où les gens, la moitié était sortie, la moitié qui restait avait une tête à vouloir vous tuer, quoi, et qui était, c'était insupportable. Et dans les années, quand le film est ressorti chez Carlotta, là, à la fois en salle et en DVD, il n'y a pas si longtemps, vers 2002 je crois, le public était complètement là, ne partait pas de la salle, on avait vu d'autres, et puis était très passionné par l'intelligence de Pasolini. Chose très nouvelle.
Oui, mais à côté de cela, est-ce que d'un point de vue cinématographique, artistique, Salo est un bon film?
Pour moi, il est extraordinaire.
Pourquoi ?
Extraordinaire. Pourquoi ? Aujourd'hui, avec Acatone, enfin moi j'aime surtout les petits courts-métrages, mais avec Acatone le premier et Salo le dernier, ce sont des films qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Alors celui-là est très, il est formidable, il est très bon pour des raisons complètement inverses à tous les autres films de Pasolini, qui sont plutôt très vite faits et qui ont cette force de la spontanéité et du truc brouillon de génie qui donne quelque chose d'extraordinaire. Celui-là est un film qui est très surprenant, y compris pour ceux qui aiment Pasolini, parce que il est parfait. Il a une sorte de perfection technique et de perfection esthétique qui est mal placée, quoi, parce que c'est d'autant plus difficile à supporter qu'il y a ce contenu infernal.
Salique,
et puis cette beauté des choses. Il est important pour plein de raisons, parce qu'il est incroyablement construit. Pour moi, j'ai dit qu'il est aussi fort que la Divine Comédie de Dante. Pour le cinéma, c'est-à-dire que on va pouvoir passer des générations à parler d'une petite chose qui se trouve à l'intérieur. Moi, j'en ai pris quelques-unes comme ça, comme on le fait depuis le Moyen-Âge avec Dante. Mais qu'est-ce que c'est Dante pour les gens qui l'ont lu? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui brûlent, il y a des gens qui sont dépecés, qui sont coupés en morceaux, et il y a quelqu'un qui passe ici et qui voit ça et qui dit qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, Salo, c'est rien d'autre que ça. C'est énorme. Ça dit énormément de choses sur nous.
En tout cas, ça balance. Le même titre, c'est aussi le titre de la chanson qu'on... Pardon pour la transition. La chanson qu'on va écouter maintenant, puisqu'on écoutait cette chanson en 1976 avec le duo France Gall-Michel Berger.
Je suis née ici, pas un petit Paris.
Pas de Paris.
J'ai jamais connu Cap Calloway.
J'ai jamais rien produit sur Broadway.
Je connais pas si.
Pas Albany.
J'suis pas Yankee.
T'es un Titi.
Moi j'suis pas pour les cocoricos.
Mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi.
Je veux faire un show.
Je demande pas mieux.
Mais du nouveau.
C'est tout ce que je veux.
Mais je veux pas copier Ginger Rogers.
Pourquoi toujours America First?
West Side Story.
C'est bien fini.
Le parapluie.
C'était joli.
Mais je veux faire quelque chose à moi.
Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi.
Les claquettes, c'est plus de notre époque.
La métro Goldwyn Mayer, c'est plus la meilleure.
Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal.
Ça balance pas mal à Paris.
Ça balance aussi.
Ça balance pas mal à Paris.
Ça balance pas mal.
Ça balance pas mal à Paris.
Ça balance aussi.
Ça balance pas mal.
Ça balance pas mal.
Ça balance pas mal à Paris.
Ça balance aussi.
Ça balance pas mal.
Ça balance pas mal.
Ça balance pas mal.
Ça balance aussi.
Hervé Joubert, Laurent Saint, on va repartir dans cet univers si différent de ce qu'on vient d'entendre.
C'est un fort contraste.
Bah oui, c'est un fort contraste, ça fait pour, justement, pour souffler un peu. Alors, ce film, on peut avoir l'impression, comme ça, avec du recul, qu'il a été tourné dans le secret, parce que c'était un objet qu'il fallait pas voir, l'objet à la fois du désir, du mystère. En fait, non?
Oui, on a entendu des gens qui disaient ça tout à l'heure, et c'est un mythe. On a entendu aussi Hélène Surgère, que j'ai bien connue, et qui m'avait raconté tout ça, là, qu'on a entendu un peu tout à l'heure parler, et qui est vraiment quelqu'un, pour moi, qui est un témoin direct, donc beaucoup plus crédible que ce qu'on peut raconter, parce que quelqu'un vous a dit, que quelqu'un avait écrit, quoi.
Elle jouait quel rôle?
Elle jouait un rôle principal. Elle avait été repérée par Pasolini dans un film de Vecchiali qu'il adorait. Vecchiali, qui vient de sortir un film actuellement, avait fait Femme, qui est un film génial, pendant des années, sans argent. Et il avait vu les deux actrices, Pasolini, et il a voulu faire venir les deux actrices dans son film pour leur donner deux rôles essentiels. Hein, il y a les huit qu'on voit plus souvent, et là-dedans, il y a les deux françaises qui étaient dans le film de Vecchiali. Voilà. Et donc, Hélène Surgère m'avait raconté qu'avec Sonia Savianche, les deux françaises, en fait, Pasolini ne les avait jamais laissées tomber, et tous les dimanches, quand il tournait pas, il allait déjeuner avec elle, donc il se parlait beaucoup. Puis bon, Hélène Surgère était une actrice intellectuelle, donc elle parlait vraiment avec Pasolini. Et elle a un témoignage très, très, très beau, quoi. D'abord, elle raconte que sur le tournage, c'était vraiment une sorte de colonie de vacances, quoi. Parce qu'il y avait des gens, il y avait des gens qui étaient mineurs, alors il fallait qu'ils soient surveillés, il fallait faire attention à ce qui se passe, etc. Il y avait des filles qui se déshabillaient parce qu'on avait choisi des filles qui étaient modèles, donc qui avaient l'habitude d'être nues, etc. Bon, il y avait toute une complication. Et les gens c'était plutôt détendu. Quoi. C'est exactement le contraire de ce qu'on imagine et de ce qu'on fantasme. Mais par ailleurs, il y a des gens qui sont... Il y a eu des gens un peu pervers qui ont raconté des histoires et qui se sont racontés des histoires et qui les ont racontées. Donc longtemps, on a eu des mythologies comme ça. Et surtout, il y a cette mythologie de dire que c'était secret, qu'il y a eu des menaces de mort, etc. Mmh. Et avec cette idée de menaces de mort, moi, j'ai jamais vu la trace de ces menaces de mort. C'est possible, hein, mais à mon avis, c'est un mythe qui traîne comme ça dans la réception de Salo. Mais en tout cas... je suis sûr que le tournage n'a pas été secret du tout, parce que j'ai consulté, je ne sais pas, au moins une centaine ou 200 coupures de presse, et il y a énormément de coupures de presse qui sont très très précises. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui font leur travail, qui vont sur place dans une petite ville d'Italie, qui vont sur le tournage, qui ramènent des photos. Dans les photos, on reconnaît les plans qui sont en train d'être tournés du film, et on a une description très précise. Pasolini qui leur raconte très précisément ce qu'il pense, quelle est sa théorie, qu'est-ce qu'il faut penser du film, qu'est-ce qu'il fait dans le film, et eux qui racontent objectivement objectivement ce qui se passe. Donc voilà, il y a une grosse mythologie qui est complètement, complètement fausse d'un tournage crève, sulfureux, de menaces de mort, etc.
Alors vous parlez, on va revenir à Pasolini lui-même. Vous dites dans le portrait du poète en cinéaste qu'il est une voix morale et prophétique de la nation italienne, quand justement il nous explique que le capitalisme tel qu'il est une forme de fascisme, finalement. Est-ce qu'il est prophétique dans la mesure, on ne veut pas dire qu'il voit Berlusconi arriver, mais enfin, quand Berlusconi arrive, s'il avait été vivant, s'il avait vu cela, il se serait dit, c'est arrivé pire que je pensais, j'imagine.
Oh, pire non, c'est pareil quoi. Mais bon, comme il n'est pas...
L'Italie des années Berlusconi, quand même, même pire que celle des années 70.
Mais comme il était mort, bon, moi je m'amuse jamais à ça, parce qu'après, Pasolini sert à tout, quoi. C'est-à-dire sert beaucoup dans les discours à dire, alors qu'est-ce qu'il aurait dit. Alors c'est vrai, c'est pour la raison que vous avez citée, là, que j'ai dite, c'est-à-dire c'est une voix prophétique. Effectivement, c'est une voix prophétique, mais un prophète ne parle pas de choses précises. Donc après, lorsqu'on le récupère, c'est de la récupération et c'est tout. C'est-à-dire qu'on se sert de lui en tant qu'une sorte de mythologie générale pour dire ce qu'on a envie de dire. Et voilà. Donc si on s'en tient à ce que lui a dit, c'est déjà largement suffisant, quoi. C'est-à-dire que il a parlé de choses qui sont anthropologiquement plus vastes, quoi, plus générales. Donc effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé et on la vit encore. Et là, il a dit des choses qui sont tout à fait justes de ce qu'on vit, évidemment. Bon, évidemment. Ne serait-ce que la violence de la société, ne serait-ce que par salaud, il a dit quelque chose qu'on vit actuellement quand même très violemment. Il y a une violence qui nous revient dans la figure, et ça, on ne peut pas l'empêcher.
Bon, promis, je ne ferai plus de récupération des paroles de Pasolini.
C'était pas pour vous.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après salaud? Vous savez, comme on dit, un avant et un après... On va parler de cinéma.
Pour le coup,
avant et un après 2001, l'Odyssée de l'espace, pour ce qui concerne la fiction, par
exemple. Oui, c'est vrai. Probablement dans la censure, d'ailleurs. Pasolini a beaucoup travaillé pour faire baisser la censure. D'abord avec le Décaméron, qui a été le film dans le monde le plus censuré et où il y a eu les plus grosses bagarres, pour des choses complètement différentes. Parce que là, c'était plutôt joyeux, quoi. Mais c'était vraiment le cul, quoi. C'est ça qui était pas supportable. Et avec Salo, c'est la même chose, sauf qu'en plus, il y a de la violence et il y a de la politique. Donc, ça devient plus dur. Et oui, il y a eu un avant et un après. Psalo a été un peu censuré, mais c'est pas si violent que ça. Et il est passé par-dessus la censure, quoi. Finalement, il a été montré en France. La France a été là-dessus un lieu de résistance, un lieu où le film était montré et nulle part ailleurs. Tous les intellectuels italiens qui voulaient voir le film devaient faire le voyage à Paris pendant plus d'un an. Donc, c'est quand même grâce à Paris qu'il a été montré et qu'il est resté à l'affiche. Même s'il est resté dans un seul cinéma et qu'on suppose qu'il y a eu quand même un accord entre le ministère et le distributeur, etc., pour que le film ne soit que dans une salle et ne soit pas si visible que ça.
N'empêche qu'il était dans une salle. Oui, bien sûr.
Et c'est énorme, il était nulle part ailleurs dans le monde.
Dernière chose, Hervé Joubert, Laurencin, sa mort. Qui l'a tué? Alors vous allez me dire, je ne sais pas, personne ne le sait, mais enfin bon, qui l'a tué?
Oui, personne ne le sait. Donc
quelle est l'hypothèse la plus acceptable?
On a quand même avancé depuis 76, quoi. Faut pas non plus déconner. On a quand même plus de choses. On sait quand même aujourd'hui qu'on est sûr qu'il y avait plusieurs personnes qui l'ont tué. Ce qu'on a su au premier instant, ce qui a été dit par le premier jugement, mais ce qui a été cassé par un jugement successif qui permettait d'arrêter le travail. Donc il y a quand même un problème avec la police, il y a quand même un problème avec la justice italienne, qui n'a pas fait son travail. Bon, alors maintenant, on est petit à petit en train de revenir là-dessus. Il faut quand même, on en est à 40 ans, ça commence à faire beaucoup. Probablement, moi je pense qu'un jour on saura. Mais le problème n'est pas comment il a été tué, on sait pertinemment comment il a été tué. On est aujourd'hui certain qu'il y a plusieurs personnes, que Pelosi est coupable, soit Pelosi n'est pas du tout coupable, ce qui n'est pas inimaginable, parce que c'est un imbécile, c'est un âne. Bon, donc, c'est un pauvre garçon. Donc, soit ce pauvre garçon, en plus, est violent et a participé au meurtre, ou alors pas du tout. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes et il y a une organisation et il y a quelque part, non pas un complot, mais un guet-apens. Ça, c'est certain. Donc, Mizrahi avait raison, hein, on l'a entendu tout à l'heure.
Oui.
Bon, il avait raison. Maintenant, le problème avec tous ces... C'est le mandant. Voilà, le mandant. Donc personne ne sait
qui a commandité.
C'est ça le problème.
Merci en tout cas, Hervé Joubert Laurencin, pour tous vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le film Salo, les 120 journées de Sodome, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction et ce sera au tour de Diane Fossey.